pour souligner encore ce qui vient d'être dit, comment la parole, et en particulier Paul dans son chapitre 7, laisse aux croyants une très grande liberté dans toutes ces choses. On peut souligner au travers de ce chapitre 7 deux expressions qui sont remarquables. Chapitre 7, il dit, verset 10, « Mais quant à ceux qui sont mariés, je leur enjoins, non pas moi, mais le Seigneur. » Il fait une distinction très marquée entre ce que lui peut dire éventuellement et puis ce qui est la pensée de Dieu concernant le mariage qu'on voit en Matthieu 19 et au début de la parole. Et pour souligner cela, c'est qu'un peu plus loin, il dit au verset 12 de ce chapitre 7, « Mais quant aux autres, je dis moi, non pas le Seigneur. » Et on connaît tout la suite. Simplement pour souligner cette distinction que fait Paul entre ce qui est vraiment selon la parole, selon Dieu, et puis ce que lui a reçu du Seigneur et ce qu'il nous dit. Et c'est remarquable de voir cette façon de parler. Les enseignements que nous donne Paul sont bien dans la parole de Dieu, donc ils sont bien aussi selon Dieu. Mais il y a une nuance là qui est très remarquable et qu'on doit souligner.
Sinon, on aurait pu se dire, mais quand même, Paul, est-ce qu'il a oublié la parole? Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'y a pas contradiction à ce que dit Paul, qui semble valoriser le célibat, et puis ce que dit le livre de la Genèse.
Ce chapitre 7, à la fin, il y a ce verset qui est, pour ma part, un peu étonnant, et qui demande peut-être quelques réflexions de la part des frères. Verset 38. Ainsi, celui qui se marie fait bien, et celui qui ne se marie pas fait mieux. Alors, peut-être Paul, étant probablement célibataire, en effet, se rendait compte lui-même que, étant célibataire, il était peut-être plus libre d'accomplir tout le service que le Seigneur lui avait donné, je ne sais pas. J'aimerais peut-être avoir quelques réflexions sur ce verset.
Il me semble que Paul dit cela après avoir bien insisté sur le fait que le célibat volontaire est quelque chose qui est décidé avec Dieu. C'est quelque chose qui est décidé avec Dieu. Le Seigneur le disait déjà en Matthieu 19, verset 11. Nous avons une traduction qui est très bonne, mais je crois que la vraie traduction, c'est ceci. Matthieu 19, verset 11. Mais il leur dit, tous ne reçoivent pas cette parole, mais seulement ceux à qui il est donné. On a un terme adversatif en grec qui est très fort, mais seulement, très restrictif, mais seulement ceux à qui cela est donné. C'est-à-dire, ne vous lancez pas, pour ainsi dire, dans des choses qui dépasseraient votre mesure. C'est ce que Paul dit ailleurs en 1 Corinthiens 7 aussi. Et c'est vrai que le chrétien est un être complexe, nous gardons nos corps avec tout ce qui les caractérise. Les affections sont des choses très fortes dans l'homme et nous n'y échappons pas. Et avec cela, nous avons la vie éternelle par Jésus-Christ. C'est tout un ensemble. Il n'y a que la parole de Dieu qui puisse gérer cela.
Paul présente le célibat volontaire comme un don. C'est une grâce, un don de grâce. Alors, il n'est pas supérieur aux autres, mais c'est un don de grâce, c'est une vocation particulière. Et par conséquent, il y a quelque chose peut-être d'un petit peu différent du mariage. Mais je crois qu'il ne faut pas non plus trop insister là-dessus. On a connu de grands serviteurs de Dieu qui, pour mieux servir le Seigneur, se sont mariés. Et oui, je pense à Luther, par exemple, et à d'autres. On a vu un serviteur qu'on connaissait qui 70 ans ou plus, s'est devenu veuf, s'est remarié avec une veuve de son assemblée locale parce que il avait besoin d'avoir la liberté de continuer à circuler, faire son service. Alors, ça peut paraître très choquant de dire, ben voilà, il a peut-être pris une femme pour pouvoir faire son ménage, sa lessive, etc. Dès l'instant où il y a eu choix volontaire des deux conjoints, la parole reconnaît cela, c'est tout. Ensuite, à eux de vivre cela ensemble.
Le verset et probablement aussi un encouragement très fort donné par Paul et à travers lui par l'Esprit Saint à tous ceux qui sont célibataires et qui auraient souhaité que les choses soient autrement. Vu qu'il ne se marie pas, fait mieux. Il est, même si affectivement ça peut être difficile, dans une situation où le Seigneur peut lui apporter des compensations qui peuvent dépasser, même sur le plan affectif, ce qu'un couple marié connaît. C'est difficile à dire parce qu'on ne connaît pas les choses, mais il n'empêche, nous prenons des exemples, réservez ça pour la suite de la réunion, mais prenons notre sœur comme Miss Vourouf, par exemple, en Égypte. Une Hollandaise qui est partie en Égypte, elle est à l'école de Théma depuis je ne sais quel âge, très jeune. Elle y a passé toute sa vie et au moment de la retraite, on lui a offert de revenir en Hollande. Et elle dit non, je reste à Théma et j'y mourrai parce que j'ai tous mes enfants là. J'ai tous mes enfants là. On connaît la même remarque qui a été faite plusieurs fois dit ici par ses sœurs Emmanuel, à qui sa sœur selon la chair, qui est mariée, qui a plusieurs enfants, disait, mais enfin, quand même, toi qui es toute seule, tu vois cette famille-là, ça ne te fait pas envie quelquefois? Et sœur Emmanuel lui répondait, mais ma pauvre, moi tous les enfants du monde, c'est mes enfants. Et il y a des célibataires parmi les croyants qui ont un cadre de dévouement, il faut le reconnaître, et un cadre de relation qui dépasse ce qu'un couple peut connaître. Bien que pour un couple aussi, il puisse y avoir de la place pour le dévouement. Le danger du couple, c'est l'égoïsme à deux. Et c'est un danger qui nous guette. L'égoïsme à Dieu, on est bien. Et voilà. Le dévouement peut manquer.
Selon l'Ancien Testament, c'était quand même une bénédiction de Dieu de se marier et d'avoir des enfants. C'est-à-dire qu'un homme qui ne se mariait pas, qui n'avait pas d'enfants, pouvait dire « Dieu ne me veut pas du bien, Dieu ne me bénit pas ». Et je trouve que ce verset met aussi un ordre un petit peu différent. Dans le sens que, comme on l'a dit, avec maintenant sous la grâce, et puis il y a une autre vision de l'éternité, une façon différente de gérer les biens de la terre, où nous n'avons pas les bénédictions matérielles forcément. Dieu ne nous bénit pas forcément avec des choses sur la terre. Et puis je pense que ce qui est le plus difficile dans le célibat, c'est pas le célibat voulu. C'est le célibat subi. Et c'est ça qui, je pense, est difficile parce que ça va contre ce qu'on aimerait et il n'y a pas de réponse. Et je crois que on a tous des choses différentes qu'on aimerait changer et qu'il faut savoir accepter. Et je trouve quand même bien de savoir que cette pensée, que ça ne veut pas dire que Dieu ne nous bénit pas. Ça nous montre qu'il y a un ordre de valeur qui est quand même différent. Et même si c'est difficile, c'est des choses qui sont, aux yeux de Dieu quand même, qui peuvent être positives.
Réponse. Jean en a souligné un tout à l'heure, c'est le temps est raccourci, le temps est court. À cette époque, dans la mentalité des Grecs, le futur n'existe pas. Et ils vivent dans le présent, et c'est un des gros problèmes d'ailleurs de l'église de Corinthe, où ils font un peu n'importe quoi sans s'inquiéter de tellement des conséquences. Et alors, Paul vient leur dire, mais attention, l'avenir, le futur auquel vous ne croyez pas ou qui vous paraît tellement lointain qu'on ne s'y intéresse pas, il est très proche. Il est avec vous, pour ainsi dire. Et il va développer ce qu'on a lu. Ça veut dire que ce soit le mariage ou le célibat, ce sont des choses temporaires, qui sont fugitives. Alors, ça ne veut pas dire qu'elles n'aient pas leur importance, mais au regard de l'éternité, ce n'est pas là l'essentiel. Et l'essentiel, c'est de servir. Et le second élément de réponse, et ça c'est un encouragement pour les célibataires qui ont le célibat subi, ou pour les jeunes qui vont peut-être un jour se marier et qui sont amenés à rester célibataires avec ce que cela comporte, c'est le verset 32, qui, à mon avis, donne l'éclairage sur l'ensemble du paragraphe qui suit. « Je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. » Quel bel encouragement que Paul vient dire à tous ces Corinthiens, qu'ils soient mariés, célibataires, « Je voudrais que vous soyez sans inquiétude. » Que vous soyez, je crois qu'il y a une traduction qui traduit « libre de toute préoccupation ». C'est une traduction un peu lointaine, mais qui donne bien l'idée qu'on ne s'inquiète pas de tout cela et qu'on va de l'avant avec une autre perspective. Parce que le temps est raccourci.
Je voudrais simplement dire une pensée, que ce soit dans le célibat ou lorsque on est marié, l'un ou l'autre, c'est toujours en vue d'un héritage. C'est toujours en vue pour le chrétien de conserver un héritage. Et peut-être que vous en avez parlé les autres fois, mais il y a cet exemple des filles de Tselofkad. On pourrait lire ce passage à la fin du livre des Nombres. Donc il y avait nombre 36, par exemple, c'est marqué à d'autres endroits, où à un autre endroit, les filles de Tselofkad avaient dit « Mais nous sommes des filles » et au verset 2, on pourrait dire « L'Éternel a commandé à mon Seigneur de donner le pays en héritage par le sort aux fils d'Israël et mon Seigneur a reçu de l'Éternel le commandement de donner l'héritage de Tselofkad, notre frère, à ses filles. » Si elles deviennent femmes de quelqu'un des fils des autres tribus des fils d'Israël, leur héritage sera ôté de l'héritage de nos pères et sera ajouté à l'héritage de la tribu à laquelle elles viendront appartenir. Et il sera ôté du lot de notre héritage, etc. Mais au verset 6, c'est ici la parole que l'Éternel a commandée à l'égard des filles de Tselofkad, disant « Elles deviendront femmes de qui leur semblera bon seulement » qu'elles deviennent femmes dans la famille de la tribu de leur père, afin que l'héritage ne passe point de tribu en tribu chez les fils d'Israël. Il y a ainsi dans la pensée du chrétien, quand on reste célibataire ou quand on est marié, toujours cet héritage en vue, cet héritage céleste. Cet héritage qui nous a été acquis par le Seigneur Jésus. Et dans ce chapitre, comme dans le chapitre 7, 1 Corinthiens 7, mais déjà dans 1 Corinthiens 6, toujours ce rappel par rapport au fait qu'il faut fuir la fornication, etc., il y a cette mention, vous avez été acheté à prix. Vous avez été acheté à prix. Et dans 1 Corinthiens 7 aussi, mais c'est par rapport à la circoncision, mais il y a ainsi au verset 23, cette mention aussi, vous avez été acheté à prix. Et il ne faut pas se rendre esclave, mais parce qu'on a été acheté à prix. Mais si on a été acheté à prix, nous savons très bien que Jésus nous accorde un héritage céleste, un héritage merveilleux. Est-ce que nous voulons détruire ou amoindrir? On ne veut pas détruire, mais est-ce que nous voulons voiler ou amoindrir cet héritage céleste que Jésus nous a réservé dans les cieux, avec lui? Et dans toutes les pensées, dans tous ces moments, ces exercices que l'on a lorsqu'on est célibataire et que l'on désire se marier, eh bien, il faut véritablement en parler d'une façon tellement intime avec le Seigneur. « Seigneur, je veux me marier, mais voilà. » Qu'est-ce qu'il va en advenir de ton héritage que tu m'as confié pour parcourir le pays, pour te servir, pour t'honorer, pour en faire profiter à d'autres, etc. Un travail immense dans ce bel et céleste héritage que Dieu nous a confié, ce pays céleste dans lequel nous sommes déjà assis et dans lequel nous marchons. Eh bien, tout cela est un héritage à conserver, à ne pas dilapider. Et particulièrement dans notre attitude que nous avons en tant que célibataire ou en tant que marié. Et nous rejoignons ainsi donc ce qui vient d'être dit. Le célibataire, un héritage, profite de cet héritage d'une façon si merveilleuse en pensant à ses les enfants de l'Assemblée. Lorsque nous prions pour nos enfants, lorsque des frères prient dans l'Assemblée en disant « ben pense à nos jeunes, nos enfants », mais ce n'est pas les enfants forcément du frère qui prie, mais c'est les enfants de l'Assemblée. Lorsque nous disons « Seigneur, prends soin de nos enfants, de nos jeunes », ça c'est un héritage. Lorsque le Seigneur, dans sa grâce, nous accorde d'avoir des enfants, puis nous accorde d'avoir, permettre que la famille s'agrandit, c'est notre héritage, c'est l'héritage que le Seigneur nous a confié, nous a donné. Lorsque nous avons des petits-enfants, eh bien, quel bonheur! Tout cela remplit nos cœurs de reconnaissance à la pensée que Dieu veut nous bénir et veut nous accorder un bel et céleste héritage au travers du célibat, tout autant qu'au travers du mariage.
On peut lire un verset dans Ésaïe 56, à la suite de ce qui vient d'être dit. Ésaïe 56, fin du verset 3. Que l'eunuque ne dise pas, vous voyez, c'est un peu l'amertume, « Voici, je suis un arbre sec. » Car ainsi dit l'Éternel, « Aux eunuques qui gardent mes sabbats et choisissent les choses auxquelles je prends plaisir et qui tiennent ferme mon alliance, je leur donnerai, voilà l'héritage, dans ma maison et au-dedans de mes murs, une place et un nom meilleur que des fils et des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne sera pas retranché. »
On connaît bien l'expression dans la Genèse où il est dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et tout ce qui vient d'être dit concernant le célibat n'enlève rien, nous le répétons, à cette parole de l'Écriture, cette parole, je dirais volontiers, fondamentale. Le mariage, comme il a été aussi dit, est le mariage pour la terre. Il est dit dans, je ne cite plus le verset, mais dans le royaume des cieux, on ne se marie ni on est donné en mariage. Et ce que Dieu a en vue, c'est le bien de l'homme et de la femme au travers du mariage, pour la terre. Et c'est au travers de ces pensées ainsi que l'homme est appelé à réaliser le mariage. Et puis nous devons insister aussi sur ce qui est dit là dans Matthieu 19, cette parole que le Seigneur reprend, parole de la Genèse, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a eu dit. C'est fondamental. Si même, comme il a été dit, comme Daniel l'a dit tout à l'heure, il y a des circonstances qui, à cause du péché, à cause de la faiblesse de l'homme, qui ont amené à accepter certaines formes de divorce, si on peut parler ainsi. Néanmoins, cette parole est là très forte, reprise par le Seigneur. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas.
Témoignage très pratique, puisque nous sommes dans un rassemblement à la mode d'Avéan où il y a beaucoup de célibataires, où il y avait, puisque plusieurs sont auprès du Seigneur maintenant, mais a connu beaucoup ce rassemblement de célibataires, aussi bien de frères que de sœurs actuellement encore. Et j'ai toujours pensé que ce verset, mais comment ça se fait, ces frères, il leur faudrait une aide qui corresponde, parce que cette expression de la Genèse dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui corresponde. Eh bien, je peux rendre témoignage que dans ce petit rassemblement local où il y a une telle paix, une telle communion, que les frères célibataires sont très heureux d'avoir ces sœurs célibataires qui les conseillent, qui les leur dit certaines choses de faire ou de ne pas faire. Et tout le monde est célibataire. Mais n'était-ce pas là, ici, ne sommes-nous pas au cœur de l'Assemblée de Dieu, là où il y a les uns qui sont une aide et les autres, les uns aident les autres. Et dans cet exemple d'hommes et de femmes célibataires, il y a toujours aussi la pensée de Dieu, et ce qui est révélé, c'est que les sœurs sont là, les sœurs célibataires, sont une aide pour l'Assemblée, une aide. Et combien cela est réjouissant et encourageant.